France Culture.
Ne faites pas attention aux barons et aux grands pontes lorsque Susan Strange prononce ces mots en 1995 devant l'Association américaine d'études internationales dont elle fut présidente. Elle est alors au crépuscule de sa vie et de sa carrière, dont ce conseil est aussi en soi un bon résumé. Économiste de formation, journaliste puis professeure à la London School of Economics, autrice prolifique, elle a élaboré une pensée nouvelle et iconoclaste de la façon dont se configurent les relations internationales qui, selon elle, ne peuvent en aucun cas se passer de l'analyse économique et inversement, en affirmant que les États ont perdu depuis longtemps la maîtrise qu'ils ont pu avoir de la production des biens et des services, mais aussi de la création, de l'accumulation et de la distribution de la connaissance et de l'information. Susan Strange a conscience de remettre en cause de façon assez fondamentale, voire radicale, tout ce qui se disait et s'enseignait jusqu'ici en relations internationales et en économie politique, car un tel constat, relativement simple en apparence, ouvre des questions abyssale dès lors que les États ne se battent plus pour des bouts de territoire mais des parts de marché. Comment comprendre leur comportement? Et surtout, dès lors que l'on affirme que la puissance n'est pas la seule prérogative des États, mais aussi celle d'acteurs financiers, d'experts, de dirigeants, de multinationales, bref, qu'ils ne sont plus les seuls maîtres à bord, comment se négocie le partage de ce pouvoir désormais éclaté? À la fois critique des politistes mais aussi des économistes, Susan Strange décrit en pionnière les dérives du système financier capitaliste, vaste casino à ses yeux. Elle a ainsi tracé sa route à travers les méandres d'une économie mondialisée et montré que les règles du jeu de la mondialisation étaient loin d'être neutres. C'est donc son portrait que nous allons dresser jusqu'à 15h dans cette émission préparée par Paul Weinarter, programmée par Bruno Barada, réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde aujourd'hui par Olivier Arnay. Et pour revenir sur ce parcours et cette pensée hors des sentiers battus, j'ai le plaisir de recevoir Mehdi Abbas, maître de conférences en économie à l'Université de Grenoble-Alpes et Sciences Po Grenoble et chercheur au sein du laboratoire PACT, le laboratoire de sciences sociales du CNRS, ainsi que Marieke Louis, maîtresse de conférences HDR en sciences politiques et directrice adjointe du centre Marc Bloch. Bonjour et bienvenue à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour madame.
Et je précise que vous êtes tous les deux avec nous, mais à distance. Alors Marieke Louis, un premier mot peut-être sur ce qu'a incarné Susan Strange. Elle est née en juin 1923 au Royaume-Uni. Elle traverse tout le XXe siècle puisqu'elle meurt en octobre 1998. Bertrand Badi, dans l'avant-propos qu'il rédige pour l'édition française d'un ouvrage majeur de Susan Strange, Le retrait de l'État, paru en 1996 pour la première fois et en 2011 pour l'édition française, Bertrand Badi donc écrivait ceci: tous ceux qui s'interrogent sur la signification et l'avenir de la mondialisation, notamment dans le contexte de la crise financière révélée en 2008, devrait lire et relire Susan Strange. Est-ce que vous souscrivez à ce propos?
Oui, je souscris évidemment à ce propos, d'autant plus que Bertrand Badi, c'est intéressant que vous le citiez, parce qu'il a incarné plutôt le courant sociologique des relations internationales. Et il y a dans cette école de pensée, justement, ce que vous avez dit sur Susan Strange, une sorte, ce côté iconoclaste, très pluridisciplinaire, cette idée qu'il faut aller regarder en dehors des sentiers battus. Donc oui, c'est une pensée de la mondialisation, c'est une pensée, mais c'est aussi une personnalité. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, une intellectuelle qui s'est fait aussi beaucoup connaître pour sa capacité à formuler de manière toujours très directe et très imagée des grandes transformations. Et voilà.
Marieke Louis, exercice pas forcément très simple, mais je voulais quand même vous demander de vous y prêter. Si on devait actualiser ces propos de Bertrand Badi, on le comprend s'il a écrit cet avant-propos en 2011, c'est dans le sillage direct de la crise financière de 2008. Si aujourd'hui on devait réécrire ces propos-là, les actualiser, que nous permettrait de comprendre Susan Strange aujourd'hui?
Alors, c'est effectivement une question très très difficile. Je dirais qu'elle nous permet peut-être de lire la victoire de Donald Trump et notamment l'alliance entre un pouvoir qui pour elle était très important, qui était tout le pouvoir dérivé du secteur de la production, mais aussi de la connaissance, et notamment le pouvoir de la tech en fait, et donc de l'alliance. On pourrait relire peut-être l'alliance Musk-Trump au regard de la théorie de Susan.
Et il est vrai qu'il faut préciser que le secteur technologique a joué un grand rôle aussi dans la théorie de Susan Strange. Mehdi Abbas, ce n'est pas un hasard si Bertrand Badi mentionne la crise financière de 2008, car Susan Strange est aussi l'autrice de ces mots en 1986 dans son ouvrage Casino Capitalism. Le système financier capitaliste se rapproche rapidement de rien de moins qu'un vaste casino. Alors comment pourrait-on situer Susan Strange ? Est-ce que c'est une spécialiste de la finance, des relations internationales, tout cela à la fois ?
Ah, merci, c'est tout cela à la fois, c'est surtout ce qu'elle a toujours voulu être, c'est-à-dire une chercheuse qui s'interroge sur ce nouveau champ qu'elle a contribué à instituer, l'économie politique internationale, et par conséquent, mais une économie politique internationale qui se veut pluraliste, éclectique, comme cela a été dit également, hors des sentiers de la pensée dominante, puisqu'elle reprochait aux politistes d'ignorer l'économie et les dimensions économiques, et elle reprochait aux économistes d'évacuer totalement les rapports de force, les rapports de puissance, et d'avoir une analyse très microéconomique des relations économiques internationales.
Et c'est important d'insister.
Donc à partir de...
Allez-y, Mehdi Abbas.
Oui.
Allez-y, je vous laisse poursuivre.
À partir de là, elle s'est constituée en deux temps, sa pensée. D'abord, une pensée critique par rapport aux pensées dominantes, aux théories dominantes, et en filigrane s'est construit également un appareil analytique, théorique, sans doute inabouti, nous aurons peut-être à y revenir, sur des questionnements qui découlent d'une inégale répartition des rapports de force et de puissance, avec cette thématique qui est de s'interroger tout le temps sur pourquoi les choses sont telles qu'elles sont et à qui profite une situation donnée, à qui profitent les rapports de richesse et de puissance à un moment donné. Elle est quelqu'un qui a profondément cherché toujours à réfléchir au changement institutionnel structurel. C'est en cela qu'elle peut nous être utile aujourd'hui sur particulièrement sa méthode et sa méthodologie pour penser les rapports économiques et politiques internationaux.
Et nous allons voir qu'il s'agit effectivement d'une méthodologie très spécifique. Mehdi Abbas, c'est important de souligner le fait qu'effectivement Susan Strange critiquait un peu tout le monde, enfin en tout cas elle critiquait au moins les politistes et les économistes, comme vous l'avez dit. Elle va même un peu plus loin, elle le dit dans son ouvrage, « Je suis fermement convaincue que les perceptions du citoyen ordinaire sont plus fondées que les prétentions des dirigeants nationaux et des bureaucraties à leur service, que le sens commun de l'homme de la rue permet de mieux comprendre la situation que la plupart des doctes théories enseignées dans les universités, les sciences sociales, en particulier dans les domaines de la politique et de l'économie, se cramponnent à des concepts obsolètes et à des théories inappropriées. » Pourquoi a-t-elle des mots aussi durs, Mehdi Abbas ?
C'est peut-être là le parcours qui l'explique. Ce n'est pas une académique. Elle n'a eu qu'une, on dira l'équivalent d'une licence, obtenue à la London School of Economics. Elle y est entrée avec une bourse. Elle a surtout tout de suite après travaillé comme journaliste. Elle s'est formée à une pensée, aux relations internationales et à une pensée critique en tant que journaliste pendant plus de 20 ans. Elle arrive à l'enseignement sur le tard et je pense que le milieu académique et universitaire lui a bien fait comprendre, on est vraiment dans les cadres sociaux de la pensée et de la réflexion, que ce n'était pas une académique, et elle ne s'est pas privée elle aussi de rappeler à ces gens-là, aux académiques et aux universitaires, qui parfois est conseiller les princes, et ça elle disait qu'on ne le dit pas assez dans la production de leurs théories, que ce sont d'abord des théories qui servent des intérêts bien établis, donc elle s'est construite par cette réflexion très, très critique sur le milieu universitaire, déconnectée du réel, et surtout sur ce qui aujourd'hui peut paraître un peu étrange, mais à l'époque, années 50, 60, y compris des années 70, ce cloisonnement très fort qui existait entre l'économique et le politique. Et elle disait que des deux côtés, des économistes et des politiques, il y avait une incompréhension totale de ce qui se passait. Et elle s'est donc construite vraiment une pensée oppositionnelle au cadre dominant et à l'académisme. Et elle a toujours revendiqué cet aspect très concret de partir du bas. Elle voulait une économie politique internationale fondée sur la condition humaine, c'est-à-dire la satisfaction des besoins humains et des besoins collectifs et les valeurs fondamentales que cela véhiculait et qui pouvait structurer cette économie politique basée sur la condition humaine et non pas simplement sur la sécurité, la puissance telle qu'elle était posée par l'essentiel de la théorie de l'économie internationale et de la politique internationale à son époque. Donc, il y a cette dimension de son parcours qui fait qu'elle s'est toujours affrontée et confrontée au milieu académique et au milieu des professionnels et universitaires. Et on l'a souvent reproché d'être tout au mieux une journaliste, une bonne journaliste. Certains disaient même qu'elle était pas une très bonne journaliste et d'être très naïve et empirique. Mais elle répondait toujours en disant votre professionnalisme, l'esprit de cours, l'incapacité à traiter le monde réel par vos théories et surtout un jargon et un vocabulaire qui ne visent qu'à masquer le vide sidérant de vos analyses. Donc on a toujours été dans cette confrontation avec Susan Strange.
Ce qui est, il faut quand même tout de même préciser, Mehdi Abbas, que, bon, certes, elle commence son parcours en journaliste, vous l'avez très bien dit, mais assez rapidement, tout de même, on peut se dire qu'elle arrive à intégrer certains cercles. De 1965 à 1975, elle a travaillé sur les questions de finances internationales au Royal Institute of International Affairs, connu sous le nom de Chatham House, qu'on peut définir comme un think tank, qui a été fondé en 1920. Elle intègre ensuite, à partir de 1978, la chaire de relations internationales de la London School of Economics. Elle n'est pas totalement exclue non plus de certains circuits plus formels, d'une forme de reconnaissance aussi de son vivant quand même, Mehdi Abbas.
Ah oui, tout à fait. Elle a un parcours de chercheuse en sciences sociales et en économie politique internationale. C'est son une expérience à la Chatham House qui le fait s'intéresser aux questions monétaires. Elle publiera deux ouvrages majeurs. C'est là où se cristallise un peu sa réflexion sur les insuffisances et de l'économie et de la politique internationale et sur la nécessité d'une approche intégrée, synthétique des deux sphères. Poursuivra sa carrière à la London School of Economics jusqu'à sa retraite en 88, puis elle va intégrer d'autres universités, l'université de Warwick, elle travaillera également à l'Institut européen de Florence, mais il y aura régulièrement dans les débats qu'elle a eus, dans les confrontations qu'elle a eues, y compris dans l'adresse, vous l'avez mentionné à la tête de l'International Studies Association, des réflexions sur le fait que, ben voilà, ce n'est pas une réelle chercheuse académique, universitaire, voilà. Donc, on voit bien qu'il y a tout de même une sorte de force de rappel, un parcours type selon certains, et elle ne cadre pas avec cela. Et toute sa réflexion, finalement, est une sorte de un reflet du fait qu'elle ne cadre pas avec le parcours académique traditionnel. Ça n'enlève en rien ce qu'elle a dit ou ce qu'elle a écrit ou les investigations qu'elle a menées sur l'économie politique internationale et surtout son apport méthodologique, son apport à la construction de la problématique ou des problématiques que traite l'économie politique internationale. Mais on lui fera toujours ce reproche.
Qui va donc la poursuivre pendant toute sa carrière. Marieke Louis, je crois que vous êtes de nouveau avec nous. Est-ce que vous souscrivez aussi au propos que vient de tenir Mehdi Abbas, cette idée que ce début de carrière dans le journalisme, hein, puisque on le disait à l'instant, Susan Strange a été journaliste pour The Economist, puis The Observer, hein, dont elle fut la plus jeune correspondante à la Maison Blanche. Tout cela, ça a influencé à la fois son parcours, mais aussi un certain style d'écriture, un certain ton, ça a eu une influence durable.
Tout à fait. Susan Strange, elle avait vraiment le goût d'une sorte de joute. Mehdi Abbas parlait de confrontation. On peut même aller jusqu'à parler de provocation. Elle a des formules très choc. Hein. Une formule qui est connue, c'est l'idée de « the waste failure system », qui est à la fois une critique de l'échec du système occidental, mais aussi l'incapacité du système westphalien à véritablement assurer, à véritablement maîtriser en fait la souveraineté souveraineté et maîtriser, avoir vraiment les capacités d'exercer cette souveraineté de manière pleine et entière. C'est aussi quelqu'un qui justement tire de son expérience de journalisme, et c'est pour ça qu'elle s'oppose beaucoup aux grands théoriciens et aux grands ponts des relations internationales, cet intérêt très fort pour l'empirie et pour les faits, même si elle ne va pas être une chercheuse empiriste dans le sens sociologique du terme. Elle a finalement assez peu d'intérêt pour les propriétés sociales des acteurs, pour les descriptions forcément très fines des situations, mais elle pense que justement, si la théorie est là, c'est pour expliquer les faits, pour expliquer les transformations du système, et pas pour se complaire dans des discussions, de revenir sans arrêt sur les hypothèses de telle ou telle école. C'est vraiment pour expliquer le monde tel qu'il est. Et d'où, d'une certaine manière, la vraie proximité qu'elle aura, et on pourra en reparler aussi sur les nuances, dans les théories, c'est quand même plus avec le marxisme et toutes les théories plus structuralistes, là où elle trouvait que le réalisme et le libéralisme, étaient enferrés dans des débats un petit peu vains.
On le comprend, Suzanne Strange veut avancer, elle veut rendre les choses concrètes également. On le disait, après avoir été journaliste, elle a été professeure, après avoir été élève, mais à la London School of Economics. Alors justement, Margot Light, qui a enseigné au sein du département de relations internationales à la fin des années 80 à la LSI, revenait dans un témoignage écrit sur ce que enseigner là-bas voulait dire à cette époque.
Lorsque j'ai rejoint la London School of Economics, le corps professoral du département de relations internationales n'était plus entièrement britannique ou entièrement blanc, et il n'était plus majoritairement jeune. Mais la parité ne s'était en revanche pas améliorée. Suzanne Strange venait de prendre sa retraite. J'étais donc la seule femme. En fait, je suis tentée de dire que j'étais la première femme, parce que je ne connaissais pas Coral Bell. Mais je connaissais Suzanne Strange et son passé exceptionnel. Elle a eu 6 enfants, tout en étant journaliste principale pour un grand journal, et passait de là à Chatham House, puis à la chaire Montagu Burton à la LSI. Elle trouvait la plupart des hommes lâches, et pensait que le féminisme était fastidieux. En d'autres termes, c'était une superwoman, et non la femme du département, de l'école, dans les relations internationales, à l'échelle internationale ou ailleurs. Il a donc incombé aux femmes moins reconnues de se reconnaître entre elles, étudiantes ou collègues, et de faire entendre leur voix au sein du département et de l'école. La principale difficulté était de convaincre les hommes qui prédominaient dans le département et dans l'école que les règles du jeu n'étaient pas équitables et que des mesures devaient être prises pour les rendre plus justes.
Avoir réussi à s'imposer dans un monde d'hommes, c'est aussi cela qui fait la spécificité du parcours et du personnage qu'est Suzanne Strange, selon vous, Marie-Éric Louis ?
Oui, alors ça, c'est très intéressant parce que là encore, on retrouve toute l'ambivalence de Suzanne Strange. Elle ne se définissait pas forcément elle-même comme une féministe. Elle avait cette formule, elle disait « Je ne suis pas plus marxiste que je ne suis une femme libérée », alors qu'évidemment, elle avait des accointances avec les deux. Il faut quand même pas oublier que Suzanne Strange, non seulement a fait carrière, mais elle avait pas non plus une vie conforme aux standards de la bonne société. Elle a été divorcée, elle a eu 6 enfants de 2 maris différents, mais tout en faisant carrière. Pour le coup, elle n'a pas véritablement contribué au développement des théories féministes des relations internationales. Mais pour autant, c'est une, sinon la rare femme, notamment dans le paysage de cette période-là en Grande-Bretagne, qui va vraiment être connue, qui va être reconnue aussi de son vivant, c'est-à-dire qu'on n'a pas une redécouverte de Suzanne Strange après sa mort. Elle était déjà très installée. Mais c'est vraiment plutôt la féministe en acte qu'en théorie. Et c'est intéressant de voir d'ailleurs que la récompense qui lui est décernée, qui a été créée après sa mort, notamment par l'International Studies Association, a récompensé beaucoup de travaux féministes par la suite.
Je crois, Marie-Éric Louis, que vous avez vous-même étudié à la London School of Economics. Est-ce que l'aura de Suzanne Strange est toujours présente ? Est-ce que les relations internationales telles qu'on les enseigne là-bas se réclament quelque part de l'apport aussi de Suzanne Strange ? Est-ce que sa pensée, son héritage est toujours présent ?
Alors, quand j'y étais, moi, j'ai pas suivi de parcours spécifique d'International Political Economy, comme on dit, mais il est vrai que, contrairement à la France, ce courant de l'économique politique, il est quand même beaucoup plus intégré dans la réflexion sur les relations internationales en général, et que c'est vrai qu'à la LSI, on retrouve vraiment ce qui, pour moi, fait un peu l'essence du travail de Susan Strange, c'est-à-dire, certes, une attention pour l'empirie, mais quand même des débats théoriques. Et ça, c'est avec toujours cette idée qu'il faut se positionner sur les grandes transformations du monde. Et c'est pour ça qu'en fait, le système, ce que représente la LSI, mais d'une certaine manière le Royaume-Uni en général, est vraiment un peu un entre-deux entre un débat aux États-Unis très dominé par les théories et au contraire en France peut-être très dominé par l'empirie. On a vraiment cette espèce de juste milieu et que oui, on retrouve dans cette formation en relations internationales à la LSI, en tout cas quand j'y étais il y a 10 ans.
Alors nous l'avons dit, Susan Strange prend part aux discussions à travers de nombreux articles de presse puis universitaires, de très nombreux ouvrages aussi, le premier en 1971, Sterling and British Policy, puis en 1976, Les relations économiques internationales en Occident, 1959-1971, Relations monétaires internationales. Or, c'est justement dans ces années 70 que tout bascule, comme le raconte un reportage diffusé au JT de 20h sur TF1 le 2 février 1973.
Temple de l'automobile, la Californie sans voiture ou la réalité qui dépasse la fiction? C'est bien pourtant ce que semblent annoncer les mesures décidées par Nixon. Station-service fermée le dimanche, vitesse limitée à 75 à l'heure. Quant au prix de l'essence, il irait jusqu'à doubler dans les prochaines semaines. Le président s'est en effet fixé comme objectif une économie de carburant qui aboutirait en fait à laisser au garage 1 sur 3 des 100 millions de véhicules américains. Et tout cela n'est sans doute qu'un début. Nixon a également recommandé une baisse du chauffage dans les maisons. Conséquence immédiate, un sérieux manque à gagner pour tous les secteurs qui vivent de la route. Des stations de sport d'hiver au restaurant. Les affaires vont mal, les clients ne viennent plus et quand ils commandent, ils font maintenant attention au prix. Si ça continue, je vais réduire le nombre d'étapes. En jugé par les réactions de la bourse, qui vient de connaître la baisse la plus vertigineuse depuis la crise mondiale de 1929, un hiver qui s'annonce froid et sombre. Moins de pétrole, c'est évidemment moins de voitures produites et moins d'acier. Moins de jouets en plastique et moins de textiles synthétiques. Donc chômage, donc inflation, puisque le carburant coûtera plus cher.
Premier choc pétrolier, mais aussi fin des accords monétaires de Bretton Woods. À ce moment-là, on se pose des questions nouvelles. Ce ne sont plus tant les enjeux de sécurité internationale qui importent que la façon d'assurer la stabilité économique internationale. Mehdi Abbas, c'est cela le contexte aussi dans lequel Susan Strange débarque?
Absolument, c'est marqué par le fait que les États-Unis, à l'époque, contribuent à démanteler un peu le système qu'ils ont institué à Bretton Woods, d'abord par la sortie du système monétaire international, c'est ce qui va l'amener à traiter, à s'intéresser aux questions monétaires internationales, et puis ensuite la contestation un peu du système commercial international, parce que les États-Unis sont confrontés à de nouvelles problématiques liées à leur engagement à la guerre au Vietnam, mais surtout le premier déficit commercial de leur histoire, le fait qu'ils n'arrivent plus à assurer la convertibilité du dollar en or. Donc on a un changement qui s'opère à ce moment-là et une contestation par la puissance dominante, c'est pas sans rappeler ce qui se passe aujourd'hui, des institutions qu'elle a elle-même contribué à mettre en place et la prise de conscience que les questions économiques sont tout aussi importantes en matière de sécurité et stabilité d'un pays que la simple question de la sécurité des capacités militaires ou de la paix et de la guerre. Et en fait, l'économie, les problématiques économiques font une entrée fracassante dans le débat. Et commence à se développer une interrogation. Si tout cela arrive, c'est peut-être parce que nous, les États-Unis, sont en train de décliner, de s'affaiblir, etc. On va avoir tout ce débat qui va nous accompagner durant toute une partie des années 70 et début des années 80, période où Susan Strange va intervenir et ce que nous avons dit précédemment, va contester les thèses dominantes, particulièrement de l'économie politique internationale américaine. Et c'est ce qui va la révéler et en faire une interlocutrice structurelle de cette théorie, au point où on l'associe souvent à l'économie politique internationale hétérodoxe et britannique.
Alors, pour bien comprendre ce que vous êtes en train de nous dire là, parce que c'est très important, Mehdi Abbas, il faut bien comprendre ce qu'est fondamentalement l'économie politique internationale. Mehdi Abbas, de quoi s'agit-il là spécifiquement ? Est-ce qu'il s'agit d'une discipline en soi à laquelle on raccroche effectivement très souvent le nom de Susan Strange, mais on va voir qu'il y a des nuances à cela. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une discipline ou d'un domaine spécifique des relations économiques internationales ? Est-ce que c'est une école ? Comment qualifier finalement cette EPI, cette économie politique internationale ?
Ouais, vaste question, parce qu'on y travaille depuis des années, on ne sait toujours pas ce que c'est. C'est comme un éléphant, tout le monde peut. C'est ce que c'est, mais personne ne pourra exactement le définir. Bon, il y a deux approches. Soit ceux qui considèrent que nous avons des grands systèmes d'économie politique, mercantilistes, physiocrates, classiques, néoclassiques, marxistes, keynésiens, que tous ces courants, pour peu ou prou, ont une analyse de l'international, de la place de l'économie nationale, donc qu'ils sont à l'origine de ce qu'on appellera l'économie politique internationale. Bon, l'économie politique internationale, c'est quoi ? C'est d'abord, je pense, une problématique, une approche qui consiste à dire que tous les phénomènes et processus internationaux sont le produit de deux logiques, une logique d'entreprise, de marché, donc d'accumulation de richesses, et une logique d'État, donc de pouvoir et d'accumulation de puissance. Et ces deux, il y a une interdépendance, une coévolution, une intrication de ces deux logiques. Et puis, vous avez, et c'est plutôt l'approche qui est aujourd'hui dominante dans ce qu'on pourrait appeler l'histoire de l'économie politique internationale, ceux qui considèrent que l'économie politique internationale moderne se scinde dans des courants qui sont l'économie politique internationale libérale, celle qui est le plus proche de l'analyse économique libérale, ou disons de la synthèse néoclassique. Mais qui est quand même une réflexion sur le rapport entre l'économique et le politique, le national et l'international. L'économie politique réaliste, ce qu'on appelle le réalisme structurel aujourd'hui, donc le pays libéral ou l'institutionnalisme libéral, le réalisme structurel. Puis vous avez les néo-gramsciens d'inspiration marxiste, et puis vous avez le courant constructiviste. Une autre façon de poser le pays, c'est de dire, en fait, nous avons deux grandes écoles. Il y a l'économie politique internationale hétérodoxe et l'économie politique internationale orthodoxe. Cette dernière, c'est l'économie politique internationale réaliste, celle qui part que les rapports de puissance expliquent tout et expliquent même l'économique. Et l'économie politique internationale libérale ou l'institutionnalisme libéral qui dit que le jeu des intérêts économiques explique tout, y compris l'organisation des rapports politiques. Et à côté, vous avez l'économie politique internationale hétérodoxe, dans laquelle vous avez l'économie politique britannique, d'essence britannique, fondatrice, entre autres, institutionnalisée par Susan Strange, mais on a d'autres auteurs comme Ronan Palan, etc. Et l'économie politique internationale néo-gramscienne ou d'inspiration canadienne qui se rattache surtout à Robert Cox. Et il y a de très forts liens entre le pays britannique et le pays néo-gramscien. Beaucoup plus que l'opposition qui existe entre le pays libéral et le pays réaliste. Voilà grosso modo les cinq dernières décennies d'évolution des débats et de façon dont on peut présenter le pays.
Ce qui nous permet
une approche des relations économiques internationales.
Ce qui nous permet, Mehdi Abbas, de bien comprendre à la fois le contexte historique, économique qu'on a évoqué de ces années 70, et puis ce fameux contexte intellectuel avec cette fameuse économie politique internationale qui, on l'a bien compris grâce à vous, se scinde dans plusieurs courants. C'est ce contexte-là qui va fournir un terreau aussi, un terrain également à Susan Strange, qui en 1970, dans un article, pose un peu les bases de sa pensée.
Le but de cet article est de présenter une proposition qui, si elle est jugée correcte, me semble d'une importance capitale pour l'étude académique des relations internationales. Elle concerne le rythme inégal de changement au sein du système politique international et du système économique international, ainsi que les effets de cette disparité sur la société internationale et sur les relations entre les États. Ces changements sont largement passés inaperçus. Il y a deux raisons possibles à cela. D'une part, ils nous ont un peu échappé au cours de la dernière décennie. D'autre part, de nombreux universitaires spécialisés dans les relations internationales, la politique et l'histoire durant ces années ont été absorbés et préoccupés par des débats théoriques et méthodologiques qui se sont concentrés, à mon avis, bien trop exclusivement sur les relations politiques et stratégiques entre les gouvernements nationaux au détriment de tout le reste. Je crois que cette négligence est déjà manifeste dans l'état actuel de la littérature sur les relations économiques internationales et qu'elle deviendra encore plus évidente avec le temps. Il existe des questions vitales pour la cohérence et la pertinence de notre vision du monde auxquelles nous, les enseignants et auteurs en relations internationales, politiques, histoire, droit et organisation, auront bientôt désespérément besoin de réponses, mais des réponses que, de la même manière, nous ne pouvons pas laisser sans risque à d'autres le soin de fournir.
Marieke Louis, on l'a compris, cette EPI, cette économie politique internationale est divisée en de très nombreux courants. On l'a compris aussi, Susan Strange s'inscrit quelque part dans cette école-là, dans cette discipline-là, mais en adoptant plutôt le courant hétérodoxe, c'est ce qu'on comprenait à l'instant. Est-ce qu'elle-même se réclamait d'une école particulière? Est-ce qu'elle s'est voulu incarnation, fer de lance aussi de cette économie politique internationale à sa façon? Ou est-ce que ça ne l'intéressait pas tellement, finalement, d'incarner un courant, ou en tout cas d'être vraiment identifiée en tant que membre de l'EPI?
Alors, c'était important pour elle d'institutionnaliser l'économie politique internationale. Elle ne voulait pas que l'économie politique internationale soit considérée comme une sous-discipline des relations internationales. Elle avait même plutôt, au contraire, l'ambition que l'économie politique internationale reprenne le pouvoir, de montrer justement qu'en fait, les relations internationales, par cette obsession d'une certaine manière envers l'État et envers les relations interétatiques, finalement, n'avaient examiné qu'un aspect de l'économie mondiale et que donc, seule l'économie politique internationale était suffisamment englobante en intégrant les marchés, mais en intégrant aussi de manière plus incarnée les firmes et les dirigeants des firmes. Donc, elle était quand même très ambitieuse par rapport à ça. Et d'ailleurs, elle a contribué à créer, au début des années 80, le premier véritable programme d'économie politique internationale à la LSI. Par contre, effectivement, elle n'avait pas forcément, je dirais, d'ambition d'attacher forcément son nom. Elle était quand même beaucoup dans le dialogue avec les uns et les autres. Beaucoup de son travail, c'est d'échanger en fait avec d'autres universitaires de son époque, soit ceux avec qui elle s'oppose, soit ceux avec qui elle partage, par exemple, des points communs. On pense quelqu'un comme John Ruggie, qui est décédé récemment, qui avait théorisé l'idée d'un libéralisme intégré. Alors typiquement, elle s'inscrit pas du tout dans cette vision-là parce qu'elle ne pense pas du tout que les États soient en capacité de réguler ou d'encastrer les marchés. Elle pense plutôt le contraire. Elle pense plutôt que c'est les forces du marché et les forces commerciales qui sont la courroie de transmission, la boîte de vitesse, elle va utiliser ce terme dans un article, du système interétatique, mais néanmoins, elle est toujours en dialogue. Elle est toujours en dialogue avec ses contemporains, ce qui fait peut-être aussi parfois que sa pensée est un petit peu diffuse d'une certaine manière, puisqu'elle est sans arrêt dans l'interaction, beaucoup plus qu'à penser à faire école en son nom, je dirais.
Marieke Louis, il y a un point qui peut étonner, ça peut sembler assez intuitif de se dire il faut penser l'économie et les relations internationales de concert, l'économie et la politique ensemble pour bien comprendre la nature même de la façon dont se configurent les relations internationales. On pourrait se dire que cela va de soi, c'est assez intuitif. Pourquoi Susan Strange parle jusqu'ici de négligence? Pourquoi il y a ce cloisonnement dont parlait aussi Mehdi Abbas? Pourquoi les économistes ne veulent pas penser avec les politistes et les politistes pas avec les économistes? Pourquoi ce froid finalement?
parce que dans la discipline des relations internationales, tout se construit autour de cette primauté, de l'État. Et c'est vraiment une primauté de l'acteur étatique qui va se traduire aussi dans une primauté de certaines problématiques, à savoir notamment la question de la guerre, de la sécurité, des problématiques qui sont très importantes pour Susan Strange. Elle ne dit pas le contraire, même si elle n'aura pas véritablement de théorie de la guerre, on pourra en reparler, ça c'est peut-être un peu la faiblesse de sa pensée sur la question de la violence, mais parce qu'il y a vraiment ce que certains ont appelé une obsession de l'État. C'était aussi ce qui était sous-entendu quand elle parle de The West Failure System, de penser systématiquement autour de ce système westphalien qui serait le détenteur de l'autorité. Et donc, il y a vraiment une sorte d'incapacité à aller voir au-delà. Et elle disait notamment, les firmes multinationales sont le grand acteur ignoré de la scène internationale. Et donc, ce qu'elle va faire, et c'est en ça qu'elle est vraiment quand même toujours, je trouve, dans ce dialogue et qu'elle ne renie jamais en fait ses ancrages, c'est que quand elle va développer le concept de pouvoir structurel ou un autre qui est très intéressant, celui de diplomatie triangulaire, eh bien elle va rapatrier en quelque sorte les concepts classiques des relations internationales, mais pour les appliquer à des fonctionnements d'ordre économique, le marché, les entreprises par exemple.
Et donc à un plus grand nombre d'acteurs, c'est tout son apport aussi. Mais Diabas, pour que l'on comprenne bien, si on devait illustrer le propos de ce qu'apporte aussi le pays, l'école politique, l'économie politique internationale, très concrètement, quand se pose par exemple une problématique qui conjugue économie et politique au niveau international, on pourrait se dire par exemple s'il faut pour un pays s'ouvrir davantage au commerce international ou non, ou au contraire se refermer et mettre une dose de protectionnisme, comment le pays se saisit de ces questions-là, selon elle, en fonction de quoi vont se comporter les agents? Est-ce que là où les économistes vont se contenter de comparer les prix nationaux et ceux en vigueur sur le marché mondial pour savoir tout simplement si le pays est avantagé ou non, le pays va plus loin? C'est comment elle modélise sa réflexion?
Alors, le pays va d'entrée de jeu poser qu'il y a un questionnement sur la puissance ou le pouvoir qui accompagne l'économie. C'est-à-dire que les processus d'accumulation de richesses, de création de richesses, de croissance économique, entre parenthèses, pour reprendre l'exemple que vous donnez, pratiquer le libre-échange, ne vise pas uniquement à rationaliser l'appareil de production, gagner en efficience et améliorer le bien-être des consommateurs, il doit consolider la puissance de l'État et consolider les entreprises et les producteurs nationaux, puisque c'est fondamentalement, dans un environnement anarchique, la capacité d'un État à se défendre et avoir des capacités matérielles pour se défendre et à se rendre nécessaire au bon fonctionnement et aux interdépendances économiques qui va le protéger. Donc à partir de là, l'économie politique internationale construit un questionnement qui dit, cela a été évoqué par Marek, il y a des rapports entre les États, c'est de la logique plutôt de puissance. Il y a des rapports État-firme avec les firmes domestiques et les firmes multinationales, et il y a des rapports d'entreprise à entreprise, mais qui ne sont jamais séparés de leur assise nationale. Dit autrement, le capital et le drapeau sont totalement imbriqués dans l'économie politique internationale. Donc on ne se questionne pas uniquement sur on va s'ouvrir au libre-échange et on va générer des gains pour les consommateurs et on va spécialiser l'appareil productif, quitte à abandonner des productions pour d'autres partenaires. Non, la variable clé, c'est l'affirmation d'un gain économique pour le pays, voire même une problématique, l'expression un peu particulière qu'utilisent les européistes, un gain relatif. Ce qui compte, c'est pas qu'on gagne tous, on peut tous gagner à l'échange, mais ce qui va fondamentalement gagner, ce qui va fondamentalement compter à la fin de la journée, c'est que je gagne plus que mes partenaires. Donc c'est une problématique de gain relatif. Cette façon de poser les rapports économiques et politiques nationaux, c'est la marque de fabrique de l'EPI, à quoi s'ajoute le fait que, comme vous l'avez évoqué, tout cela ne procède pas simplement de prix relatifs, de signaux de prix, d'offres et de demandes. Il y a des institutions et les institutions sont souvent le produit de compromis politiques et souvent ces compromis politiques sont le produit de rapports de puissance. Et ce que dit le pays, c'est que ces rapports de puissance, eh ben, ils prennent appui pas simplement sur la puissance militaire, mais sur la puissance productive, industrielle, technologique d'une nation. C'est là où tout, à nouveau, s'imbrique, plutôt même s'intrique, l'économique et le politique pour expliquer le comportement à l'international d'un pays. Autre exemple, et je termine.
Allez-y, Médiévès.
Sur les taux de change, les économistes ont pour une problématique essentielle, c'est de trouver le taux de change d'équilibre. Le pays vous dira, le taux de change, le régime monétaire, la stratégie monétaire est une composante de la politique d'un pays, de sa capacité à influer sur les flux. La politique de change détermine sa capacité à importer, exporter, fait qu'il y a une stratégie étatique ou politique de gestion des taux de change. Ce n'est pas qu'un prix relatif des monnaies les unes par rapport aux autres. Et le système monétaire international a été construit par une puissance qui a imposé sa monnaie, etc. etc. Donc, c'est surtout une façon de poser les problèmes avec ses propres concepts, ses propres notions et également des conclusions toujours en termes de rapport de puissance et d'équilibre de la puissance au niveau international.
Ce qui est extrêmement fondamental avec cette notion de compromis politique que vous évoquiez, Mehdi Abbas, et aussi celle de rapport de force, c'est qu'il y a toute cette idée de dire que la mondialisation n'est pas neutre, elle est le fruit de ces compromis, de ces discussions, de ces négociations-là. Marie-Claude, pour qu'on comprenne bien, qu'on repose bien les bases encore une fois, lorsque Susan Strange, ou même toutes celles et ceux qui se réclament de l'économie politique internationale, disent que les États ne sont plus les seuls finalement à incarner la puissance et surtout à pouvoir l'exercer, l'idée ce n'est pas de dire que les marchés ont pris le pas sur les États. L'idée, c'est beaucoup plus de dire que le pouvoir est désormais éclaté et que donc ça donne lieu à ces négociations. Est-ce qu'il n'y a pas de question de suprématie de l'un sur l'autre ou est-ce le cas, Marie-Claude?
Alors, tout à fait. Et même si ça a un petit peu évolué entre les années 80, quand elle publie State and Market en 88, et quand ensuite elle va vraiment publier deux ouvrages, un article et un ouvrage important. En 95, c'est The Defective State, donc l'idée d'un État défectueux, et ensuite en 96, donc le retrait de l'État. Donc là, effectivement, c'est beaucoup d'ailleurs ce que les gens ont retenu, et parfois un petit peu à tort, cette idée que finalement, les firmes auraient usurpé le pouvoir des États. Et ça, elle s'en défend. Elle dit que ce n'est pas une histoire d'usurpation, ce n'est pas une histoire même d'extorsion, c'est une histoire de reconfiguration des rapports de force. Et c'est vrai que dans les années 80, Mehdi Abbas reparlait de ce contexte dans lequel elle écrit où aux États-Unis, tout le monde prophétisait le déclin des États-Unis, l'émergence de la Chine, des autres puissances. Et elle disait non, elle dit évidemment qu'il y a des évolutions, qu'il y a des transformations, mais si on reprend justement les paramètres de la puissance structurelle, en fait les États-Unis restent une puissance hégémonique. Mais effectivement, il y a une reconfiguration, puisque l'État n'a tout simplement plus systématiquement le monopole sur tous ces piliers qui font pour elle le pouvoir structurel. Mais c'est vrai qu'à la fin, à partir du milieu des années 90, dans ses derniers écrits, alors que justement elle disait dans un premier temps, bon, on n'est pas passé de l'un à l'autre, elle suggère que le pouvoir structurel est de plus en plus détenu par les firmes, et notamment les firmes multinationales. De ce point de vue-là, elle insiste. On parle du big business, on ne parle pas des petites et des moyennes entreprises. Et donc, c'est vrai qu'en termes de capacité à négocier, et ça c'est aussi un élément important de sa pensée, elle insiste sur le fait que le système international est très asymétrique et que donc les capacités de négociation des États, selon qu'on est les États-Unis ou selon qu'on est Saint-Marin, par exemple, n'ont strictement rien à voir et que derrière cette fiction de l'égalité souveraine des États, il y a d'énormes asymétries de pouvoir qui ont pour conséquence que les États sont plus ou moins forts ou plus ou moins faibles quand ils vont négocier avec des firmes multinationales pour les attirer sur leur territoire, par exemple.
Cela dit, on comprend, Marie-Claude, qu'il y ait pu avoir confusion à un moment donné, parce qu'elle le dit quand même en 96, ma thèse est que les forces impersonnelles des marchés mondiaux, davantage organisées depuis l'après-guerre par l'entreprise privée via la finance, l'industrie et le commerce que par les décisions conjointes des gouvernements, sont désormais plus puissantes que les États censés incarner l'autorité politique ultime sur la société et l'économie. Bon, là, on comprend qu'il y ait pu avoir confusion.
Tout à fait, mais c'est ce que je disais sur l'évolution quand même de sa, pensée. Je pense qu'il faut quand même pas oublier que quand elle est écrite dans les années 70-80, on est quand même dans cette, on est quand même dans le contexte de guerre froide, on est quand même dans un moment où les États-Unis sont quand même la puissance hégémonique avec quand même un État qui décide encore beaucoup, et que dans les années 90, effectivement, là le contexte commence à changer, mais c'est aussi d'une certaine manière, elle reste fidèle à sa pensée dans le sens où elle estime qu'il faut constamment réexaminer justement où se situent les différents acteurs par rapport à ces différents paramètres de pouvoir. Donc ce sur quoi je dirais qu'elle n'a jamais, elle s'est jamais reniée, c'est que même si on peut dire qu'à un moment donné les États perdent le contrôle, déjà il faut toujours jamais oublier de préciser de quels États on parle, et surtout ça ne veut pas dire que les États ne peuvent pas le regagner éventuellement, même si on pourra en reparler, elle avait acté très clairement avec la chute de l'URSS, le modèle de l'économie socialiste avait échoué et que désormais il fallait plus penser à comment réformer l'économie capitaliste telle qu'elle était. Mais ça renvoie justement à ses positions plus réformistes que réellement marxistes ou révolutionnaires.
Alors on le comprend, hein, Suzanne Strange, tout en s'inscrivant dans la logique d'une discipline qui se renouvelle à l'aune des bouleversements des années 70, entend tout de même tracer sa propre voie. Elle propose sa propre vision de ce que sont les États, la puissance. Elle pose aussi un regard tranchant, hein, sur la financiarisation de l'économie, et notamment dans son ouvrage Casino Capitalism, qui sortira en 1986, soit l'année de sortie du Big Mouth Strikes Again des Smiths. Je repensais la puissance des nations grâce aux outils de la politique, certes, mais aussi ceux de l'économie. C'est le programme d'Entendez-vous l'écho aujourd'hui. Nous sommes toujours en compagnie de Marieke Louis, maîtresse de conférences en sciences politiques, et de Mehdi Abbas, maître de conférences en économie à l'université de Grenoble-Alpes et Sciences Po Grenoble, et qui sont avec nous et à distance pour dresser ce portrait de Suzanne Strange. Suzanne Strange qui, nous l'avons dit, s'inscrit donc dans une théorie des relations internationales qui prend en compte à la fois la puissance des États, mais aussi les enjeux de richesse. Bref, elle envisage de relier politique et économie pour mieux comprendre les bouleversements internationaux. Cela ne se fait pas sans remettre en cause un certain nombre de présupposés, et notamment bien ancrés académiquement. Mais Mehdi Abbas, il y a un point sur lequel nous sommes passés un peu vite. Nous avons mentionné l'inspiration marxiste de Suzanne Strange. Que faut-il entendre par là? Dans quelle mesure elle se considérait elle-même comme une marxiste, et comment cela a infusé aussi dans sa vision de l'économie politique?
Ah ben, elle trouve dans le marxisme une réflexion sur le changement. C'est le point important, puisque Susan Strange fonde une économie politique internationale qui s'intéresse surtout au changement, puisque changement structurel et institutionnel, puisque une partie de ses critiques à l'encontre de le pays orthodoxe est de dire que c'est un pays conservatrice, voire réactionnaire, statique. Donc elle élabore une construction théorique qui vise à produire, à expliquer le changement, et elle estime que c'est dans le marxisme qui mêle sociologie, économie politique, recours à l'histoire, qu'elle trouve une méthode, hein. C'est plutôt le Marx, penseur de la dynamique du capitalisme qui l'intéresse, pas le Marx essentiellement économiste politiste. Elle trouve dans le marxisme c'est des outils, une boîte à outils qui lui permet de penser le changement structurel, les changements globaux et cette sociologie historique du changement dont elle se revendique. Il y a aussi le recours un peu à cette conception que cela a été dit, nous sommes dans un système profondément inégalitaire, que l'enjeu, alors elle ne reprend pas le terme marxiste de surplus de profit, mais sa problématique fondamentale, dirons-nous, la pierre d'édification de toute sa construction théorique, c'est de toujours chercher à répondre à la question de à qui cela profite-t-il ? C'est-à-dire qui gagne quoi dans les processus que nous observons, c'est le fameux Q Bono, qui gagne quoi dans les processus économiques et politiques ? À qui profite une décision ? Mais l'originalité de Susan Strange, c'est-à-dire à qui profite une décision, à qui profite un accord, mais également à qui profite un non-accord ? Qui gagne d'une non-régulation ? Qui gagne de l'instabilité ? Parce qu'elle estime, ça c'est un peu pénal, cela vient du marxisme, il y a toujours à un moment donné quelqu'un qui fait un petit surplus qui lui permet cumulativement de gagner en richesse et donc en puissance. Ouais. C'est là où ça se connecte au marxisme. La seconde connexion avec le marxisme, c'est dans le dialogue avec le pays canadien et Robert Cox, qui lui est franchement plus, on revendique plus un ancrage marxiste et gramscien, et il y a eu un dialogue durant les années 70-80 entre ces deux courants qui a considérablement enrichi les deux, puisque, encore une fois, contrairement à l'opposition au pays libéral ou libéraliste, le pays néo-gramscien et le pays de Strange ne s'opposent pas, elles dialoguent en continu. L'expression le terme a été utilisé, le dialogue, effectivement, il y a un dialogue permanent avec un enrichissement mutuel. Donc, c'est à ces deux niveaux, donc le fonctionnement du capitalisme, la dynamique inégalitaire, politique et économique du capitalisme, et le fait que tout n'est pas réductible à l'accumulation de richesses.
Et je rappelle que EPI vaut pour économie et politique internationale. Marie-Louis, vous souhaitiez réagir?
Oui, je voulais juste rajouter un élément. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Mehdi Abbas. Un autre élément qui fait d'elle, enfin qui la rapproche aussi des marxistes, c'est justement dans le fait d'ouvrir un peu les boîtes noires des grandes catégories d'analyse. Elle disait par exemple, pour l'économiste politique que je suis, la répartition du pouvoir entre les générations, les classes sociales, les professions et les sexes aussi, donc il y avait aussi ce côté inégalité de genre, est plus importante que la répartition entre les États ou les nations. C'est-à-dire qu'elle avait cette attention aussi aux autres lignes de clivage en fait qui traversent la société. Et donc de ce point de vue-là, tous ceux qui se revendiquent aujourd'hui des théories marxistes vont regarder justement comment fonctionne à un niveau transnational cette dynamique des classes sociales. Après, là où effectivement elle n'était pas marxiste, c'est dans le projet plus politique ou engagé. C'était une femme engagée. Elle essayait justement de rendre compte du sentiment que pouvaient avoir les citoyens d'une forme de dépossession et notamment de cette perte de capacité des politiques à influencer sur l'économie. Mais elle n'a jamais théorisé une forme de capture par le marché. Elle n'a jamais dit que, par exemple, elle s'en refusait, que les États n'étaient que des marionnettes aux mains du capital. Ça, elle reconnaît quand même une relative autonomie aux États. Et encore une fois la chute de l'URSS actée, elle considère vraiment que maintenant, comme elle le dit, nous vivons dans le même marché et donc il faut faire en sorte qu'il ne coule pas. Donc, de ce point de vue-là, elle a une sorte de pragmatisme et elle ne souhaite pas renverser, en fait, fait ce système-là, même si elle en pointe, même si elle en pointe les dangers et les limites.
Mais Marie-Claude, j'insiste sur ce point parce que c'est un point d'interrogation qui flotte aussi au-dessus de cette émission. Mais on pourrait se demander, voilà, on a bien compris que Suzanne Strange, elle met beaucoup d'énergie, une certaine verve aussi, à tenter de faire comprendre qu'il n'y a pas plus que les États qui peuvent incarner la puissance. Il y a tout un tas d'autres acteurs financiers, les dirigeants de multinationales. Pourquoi passer autant d'énergie à faire comprendre que le pouvoir désormais est divisé, si ce n'est pas pour tirer une conclusion? On pourrait se dire, à partir du moment où il y a ce constat-là, il y a l'idée que tout le monde doit être considéré comme une force de puissance potentielle et donc être régulé en tant que tel, ou en tout cas être pris en compte juridiquement en tant que tel. D'ailleurs, elle dénonce les fictions juridiques qui veulent qu'il n'y ait que les États qui aient le droit au chapitre. Et pourtant, on a l'impression qu'elle ne va pas jusqu'au bout, qu'elle ne propose pas un système où cette répartition du pouvoir est prise en compte, notamment via la régulation.
C'est vrai que ce n'est pas une universitaire qui va forcément s'engager pour des régulations explicites, comme le fera à l'inverse quelqu'un comme John Ruggie, qui lui s'est beaucoup engagé par exemple pour la régulation des entreprises multinationales. Je crois qu'il y a quelque chose chez Suzanne Strange de l'ordre d'une compréhension, peut-être aussi d'un rapport à l'engagement qui est plus dans le fait de dresser un nouveau programme de recherche. Peut-être aussi que c'est sa fibre un peu journalistique, c'est quelqu'un qui documente, c'est quelqu'un qui rencontre, constate. C'est quelqu'un qui veut dessiner un programme de recherche, et de ce point de vue-là, elle nous invite à tirer des conclusions. Elle dit, par exemple, l'objet de notre objet d'étude doit être de localiser le pouvoir et l'autorité où qu'il se trouve. Mais c'est vrai qu'elle n'en tire pas forcément des conclusions en termes de régulation. Là où je trouve quand même que sur les écrits post-90, elle devient plus concernée, c'est quand même sur les dégâts environnementaux. Elle va quand même, dès le début des années 90, intégrer cette problématique, ce qui renvoie aussi quand même à son caractère visionnaire et pas du tout naïf sur les dangers que font peser aussi une certaine logique, une logique d'accumulation. Mais c'est vrai que ça ne se transcrit pas forcément dans des propositions politiques, même si lorsqu'elle fait des interventions ou qu'elle écrit aussi dans des journaux, elle va plutôt aussi privilégier des publications plutôt de gauche. Donc de ce point de vue-là, son engagement ne fait pas trop de doute.
Alors, je voudrais quand même vous faire entendre la façon dont elle parle de la façon dont la finance aussi réussit à s'imposer en tant qu'acteur légitime, en tout cas en tant qu'acteur de puissance. C'est un extrait de son ouvrage « Retrait de l'État » paru en 1996.
Un jeune trader magouilleur est capable, par ses arbitrages insuffisamment surveillés à Singapour, de provoquer la faillite de sa banque britannique Barings. Un de ses homologues japonais travaillant à New York pour Daiwa peut accumuler des pertes de plus $1 milliard et contraindre ainsi sa banque à cesser ses activités aux États-Unis. Les failles des réglementations adoptées par les principales banques centrales depuis le milieu des années 70 semblent permettre à des opérateurs privés d'agir largement au mépris de ces autorités de tutelle.
Les années 80 et 90 sont aussi des années où Suzanne Strange insiste sur le rôle croissant de la finance dans l'économie, notamment américaine. En 1986, paraît Casino Capitalism, on le disait à l'instant. Mehdi Abbas, quel regard porte Suzanne Strange sur l'instabilité financière? On entendait là des mots quand même plutôt durs.
Ah oui, elle a une analyse critique de la financiarisation du capitalisme et du développement de la structure financière, hein, parce que ça fait partie des quatre structures importantes de contrôle de l'économie politique internationale, et elle en a une analyse critique qui, pour elle, est synonyme surtout cette financiarisation d'une forme renouvelée du pouvoir de contrôle des États-Unis, qui sont la puissance structurelle monétaro-financière. Et que c'est une manifestation du redéploiement, reconfiguration de la puissance américaine, de la financiarisation. Elle est source d'instabilité, mais conformément à sa problématique, de cette instabilité, certains gagnent. Et certains ont peut-être intérêt à ce que le système soit instable, parce que c'est une source pour eux ponctuelle de profit. Et que finalement, du point de vue de ces acteurs, cela est assez efficace. Donc, on est toujours sur cet équilibre ou cette analyse un peu duale chez Strange, de constater des évolutions, d'avoir tout de même un jugement normatif
sur ces évolutions, et mais on a de la peine à en sortir des recommandations et une opérationnalisation de tout son appareillage théorique. Mais sur le développement du capitalisme financier, elle est réservée, elle en fait un problème d'irresponsabilité d'abord de la puissance hégémonique, c'est-à-dire les États-Unis.
Mais Diabaz, vous venez de dire que certains gagnent de l'instabilité. On pourrait se dire, et je reprends là ce que nous disait Marie-Cloué en tout début d'émission, on pourrait se dire que c'est une façon aussi d'interpréter ce qui est souvent vu comme de l'irrationalité, notamment vis-à-vis des dirigeants, enfin des membres du gouvernement américain. Finalement, il y a une pertinence de l'analyse de Susan Strange, notamment avec ce qui se passe aujourd'hui.
Tout à fait. Si on fait abstraction de tout jugement normatif, oui, son analyse permet de comprendre pourquoi, par exemple, nous sommes étonnés de la capacité disruptive des États-Unis, mais c'est tout à fait logique, puisque déjà, cette capacité disruptive, elle est manifeste quand Nixon quitte Bretton Woods, quand ils attaquent le GATT, c'est-à-dire le président, l'ancêtre de l'OMC. Donc, il y a des récurrences dans le comportement stratégique.
Il y a des récurrences, et c'est vrai que Susan Strange nous a aidé à les mettre sur la table, puisqu'on rappelle aussi sa vision très historique de l'évolution de ses relations internationales. Un grand merci à tous les deux, Marie-Cloué et Mehdi Abbas, d'avoir participé à cette émission.